Myriam Torjman, Bat Sarah, Refoua Shlema. D'accord. Donc ça, c'est le cours à sa Refoua. Nous en sommes donc dans le livre de Bereshit. Nous sommes dans le livre de Bereshit au chapitre Bet. Et nous sommes arrivés au verset Kaf Bet. On n'a pas fait Kaf Gimel, n'est-ce pas?
Non.
Bon. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez un feutre?
Non.
Il n'y a pas un feutre? Non, il n'y a pas de feutre.
Bon. Pour le tableau, le feutre ou...
Oui, enfin, comme celui qu'on met au tableau. Et, si tu m'as invité, quelques feuilles de papier. Alors, donc, on en est au chapitre Bet, verset... Kaf Bet. Vaïven Hashem Elohim Tatzela Asher Lakach Min Adam Liisha. Et Dieu construisit le côté qu'il avait pris de l'homme et en fit une femme. Vaivia et la Adam, il l'amena à l'homme. Or ici, le mot Adam ne veut pas dire l'homme en tant que masculin, mais l'homme en tant que l'humain. C'est-à-dire, il amène cette situation nouvelle au jugement de l'homme en son ensemble. C'est donc qui? C'est le mâle ou la femelle? Les deux à la fois. C'est-à-dire, l'homme divisé en deux. Merci, tu es trop bon. Voilà. L'homme maintenant divisé en deux doit juger de la nouvelle situation. Vayomer à Adam, alors là on arrive au verset Kafgimel qui est crucial. Vayomer à Adam, et l'homme dit, Zot apam, comment vous traduisez ce Zot apam? Cette fois-ci. Etzem me'atzamai ou basar mi besari. C'est un os de mes os et la chair de ma chair. Donc, il arrive à discerner qu'il est maintenant divisé en deux êtres. Un être qui est l'os de ses os et un autre être qui est la chair de sa chair. Maintenant, le problème, qui est qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'homme qui est... Je parle ici maintenant du masculin. Est-ce que c'est l'homme masculin qui est l'os et la femme qui est la chair? Ou est-ce que c'est l'homme qui est la chair et la femme qui est l'os? À part ça, je ne sais pas encore qu'est-ce que veulent dire ces mots-là. C'est quoi la chair, c'est quoi l'os? D'accord? Hein? Intéressant, non, quand même, ça va? Exactement. Maintenant, le problème... comment? La chair, c'est...
La chair, on pourrait le comparer au cœur et la femme, et l'os à ce qui est la moelle épinière et le cerveau.
Oui, il faut prouver tout ça. Il faut prouver. Non, je veux bien, mais ce que tu dis là est extérieur au texte. Je veux une preuve dans le texte. En fait, regardez au verset Kafalef, deux versets plus haut. Vayapel Hashem Elohim tardema la Adam Vayishan. Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, il dormit. Vayikar Had Mitsalotav, il prit un de ses côtés. Vayisgor Basar Tartena, il ferma de la chair à sa place. Ça veut dire que si je prends quelqu'un quelque chose et que je veux le dédommager, je lui donne quoi? Parce que je lui ai pris. Vous avez compris? C'est-à-dire, quand je dédommage quelqu'un d'un vol, par exemple, je l'ai volé. Alors, je ne veux pas trop le voler, je lui mets quelque chose de ce que j'ai pris à la place, n'est-ce pas? Donc, ça voudrait donc dire que la femme, c'est ici la chair, et que c'est l'homme qui est l'os. Ça veut dire quoi, cette distinction entre os et chair? À quoi servent les os?
À bouger.
Les muscles aussi. Donc
c'est la structure, du corps.
La structure. Ça donne une forme. D'accord? Donc, on voit aussi une asymétrie dans l'être humain. Il y a un élément qui donne la structure. C'est le masculin. Il y a un élément qui donne la chair. C'est quoi la chair? La sensibilité. C'est-à-dire, la chair, c'est ce qui ressent. C'est-à-dire, par exemple, si je me pince, ah, ça me fait mal. C'est la chair qui est pincée, et ça fait mal. Donc, c'est-à-dire, il y a dans l'homme un élément de structure et un élément de sensibilité. L'élément de sensibilité se retrouve concentré dans le féminin, de structure dans le masculin. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit, ah ben, celui-là, c'est un homme. C'est-à-dire quoi, celui-là, c'est un homme, il sait ce qu'il veut. Il est assertif, comme on dit. Tandis que du côté féminin, quand il y a un excès de sensibilité chez un homme, on dit il est féminin. D'accord? C'est-à-dire il n'y a pas de symétrie absolue entre l'homme et la femme. Ce n'est pas seulement au niveau biologique, c'est au niveau également de l'identité. Maintenant, le problème, si c'est vrai ce que je vous ai dit, c'est comment est-ce qu'on va le couper. Là, nous allons faire plusieurs dessins. Nous allons faire ici un premier dessin. Ceci représente l'homme avant d'être coupé en deux. Nous allons écrire ici des mots en hébreu. Nous allons écrire des mots en hébreu que je pense que vous connaissez. Etsem et Bassar. D'accord ? C'est-à-dire l'homme à l'origine est composé des deux éléments. L'élément Etsem, l'élément Bassar. Hein ?
C'est quoi Etsem ?
Etsem veut dire os et Bassar veut dire chair. Pour vous aider, nous allons traduire ces mots-là en français. En chair et en os. D'accord ? Ça, c'est l'homme. Maintenant, le problème, nous avons déjà dit que le côté bassard appartient au féminin, le côté etsem appartient au masculin. Il y a même des pointillés. Alors, comment couper l'homme ? Imaginez que vous êtes Dieu et que vous voulez couper l'homme en deux.
Normalement, comme ça.
Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité consiste à couper comme ça, comme tu l'as dit. Ça, c'est ta proposition, n'est-ce pas ?
Non, c'est pas ma proposition, c'est la logique. Enfin,
c'est la logique.
Si on veut que ce soit réparti également,
d'accord. Il y a un problème, c'est que si c'est vraiment comme ça, alors c'est la science interdite.
Mais
non. Bah, ça veut dire que ça n'amène à rien. On ne peut pas rentrer. Pourquoi ? Parce que, oui, ils se ressemblent trop. Donc rien n'apporte rien à l'autre. D'accord ? Alors, il y a une autre possibilité qui est. De couper comme ça. Ils sont trop étrangers l'un à l'autre. D'accord ? Donc, on est bien obligé, quand vous êtes très intelligent, vous savez tout de suite, il faut bien couper, donc, en diagonale. Et alors, dans ce cas-là, on peut avancer tout le temps parce qu'il n'y a pas de stationnement. Interdit de stationner. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que il y aura dans l'un une dominante Etsem, mais avec un peu de Bassar, et dans l'autre, il y aura une dominante Bassar avec un peu de Etsem. Ça veut dire qu'il y a dans tout homme un élément féminin, dans toute femme un élément masculin, ce qui fait que l'un se rencontre à travers l'autre. C'est-à-dire, il complète l'homme qu'il y a en elle et elle complète le féminin qu'il y a en lui. Et donc, ils ont une interdépendance, ils sont intéressés à se rencontrer tout en restant différents. Ce qui explique qu'il y a parfois chez des hommes un excès de féminité ou chez des hommes ou chez des femmes un excès de masculinité. C'est pas seulement au niveau sexuel, hein. Ça veut dire également au niveau du comportement de l'être. Par exemple, vous avez des femmes qui sont des hommes politiques, qui se comportent à la manière des hommes. D'accord ? Par exemple, il y avait une première ministre israélienne qui s'appelait Golda Meir, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle agissait, son comportement, disons, quotidien et de manière générale, était celui d'un homme. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle elle a divorcé dès qu'elle a compris qu'elle devait se consacrer à la politique. D'accord ? C'est-à-dire, il y a cette interdépendance. Maintenant, ça implique des différences au niveau également de la conscience. Il y a dans le Talmud deux expressions. Une qui dit « Nashim da'atan kalla ». Les femmes sont légères en da'at. le mot da'at, qui veut dire connaissance. Mais plus précisément, da'at, ça veut dire dans la capacité de tenir. C'est-à-dire, face à une adversité, l'homme tient mieux que la femme. Donc l'homme a plus de da'at que la femme. D'un autre côté, on nous dit Bina yetera natan ba'isha. Il y a un surplus de bina, de discernement, d'entendement chez la femme. Ça veut donc dire qu'il y a un déséquilibre. Plus de da'at chez l'homme, plus de bina chez la femme. Or, la Mishnah dans Maseret Avot nous dit Imen da'at en bina, imen bina en da'at. S'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de bina. S'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de da'at. Conclusion, il faut se marier. C'est-à-dire, le mariage, c'est l'union de da'at et bina. Maintenant, il y a un élément qui est commun aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qui n'est ni bina, qui n'est ni bina ni da'at. C'est quoi?
Chochma,
bien sûr, puisque vous avez entendu parler des chassidim de Lubavitch, Chabad, chochma, bina, da'at. Donc, au niveau de la chochma, ce qu'on appelle la sagesse, ou disons la capacité intellectuelle, on voit dans le Tanakh aussi bien des hommes que des femmes qui ont le vocable de chochma. Isha Chachama, Ish Chacham, il y a les deux. C'est au niveau de Chochma, c'est égal. Au niveau d'At et Bina, qui est la manière d'intérioriser la Chochma, c'est pas la même chose. Ça explique un phénomène surprenant. Qu'il y a des compétitions pour hommes et des compétitions pour femmes. Comment expliquer cela? En athlétisme, je peux comprendre. C'est-à-dire au niveau de la structure du squelette, la manière dont les muscles sont organisés, on peut comprendre qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Donc ça explique qu'il y a des concours d'athlétisme pour hommes et athlétisme pour femmes. Mais, comment? Bilgo. Le bingo, oui. C'est bingo, oui. Oui. Mais, il y a également des compétitions pour hommes et pour femmes d'échecs, de jeux d'échecs. Alors ça, c'est extrêmement surprenant, parce que l'effort physique que demande le déplacement d'un pion sur l'échiquier, c'est pas très différent. On peut même, à la limite, même appuyer sur un bouton. Et pourtant, même dans des pays où le jeu d'échecs est considéré comme une valeur, comme par exemple en Russie, il y a des compétitions, il y a des championnats d'échecs pour hommes et des championnats d'échecs pour femmes. Justement, pourquoi? Exactement. C'est-à-dire que l'orientation dans l'espace n'est pas la même chez les hommes et chez les femmes. L'un relève de date et l'autre de bina. Par exemple, si vous demandez à un homme, comment est-ce qu'on arrive au Machon Meir? Il vous dira, vous prenez la deuxième à gauche, après troisième à droite, et encore une fois à gauche, et sur la place, après, là, vous prenez encore une fois à gauche, c'est là-bas. Si vous demandez à une femme, elle vous dira, ben, d'abord il y a un jardin d'enfants, après vous passez à côté d'une épicerie, et en haut de la montée, qui est très dure d'ailleurs, vous avez là-bas un vendeur de pizza et un vendeur de falafel, et là vous regardez, là où il y a des arbres verts, et bien c'est là-bas. C'est-à-dire la représentation est imagée. Il y a plus d'imaginal dans la représentation de l'espace chez les femmes que chez les hommes, et ça a des conséquences au niveau du jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, il y a une certaine abstraction qui correspond plus à la capacité masculine qu'à la capacité féminine. Et c'est pour ça que les championnats d'échecs ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les hommes sont meilleurs aux échecs que les femmes, et il y a des choses dans lesquelles les femmes sont meilleures que les hommes. Disons, par exemple, et en fait, dans les universités, les études de biologie sont remplies de femmes, de médecine, d'hommes. C'est le fait. Pourtant, c'est à peu près les mêmes données scientifiques.
C'est pas le même
problème. Oui, c'est exactement. Ouais. Comment?
Il y a d'autres données.
Il y a encore de données, d'accord, mais enfin, peu importe. Ça veut dire qu'il y a une différenciation, quelles que soient les raisons, il y a des différenciations entre le masculin et le féminin au niveau de la sagesse qui ne dépend pas du quotient intellectuel. Au niveau de la capacité intellectuelle, les hommes et les femmes sont égaux. Voilà, donc, et la Torah nous donne ici l'explication de cela. L'un est chair, l'autre est os. Vous avez compris? Bon. Les autres, ikari isha, qui me ish lo kohazot. Celle-ci sera appelée Isha, car elle a été prise d'un Ish. Alors là, c'est très surprenant, parce que si l'homme est coupé en deux, pourquoi est-ce que dire que l'un est resté en place et l'autre a été déplacé? D'accord? Alors c'est vrai qu'il y a cette différence, mais il y en a un qui est resté en place, l'homme, et l'autre qui a été déplacé, la femme. Ça veut dire que c'est l'homme qui se sent plus à l'aise dans la stabilité, et la femme qui se sent déplacée. D'où cette idée de gravitation. Comment?
Ça
ne peut pas être
inverse,
l'homme qui se sent déplacé, la femme qui se sent... Ah, parce qu'il écrit, mais ish lo kochazot, c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est-à-dire, c'est comme si on l'avait laissée en place, et elle qui a été déplacée. C'est-à-dire, par exemple, dans la littérature romantique, l'homme a souvent l'aspect d'un axe, et la femme d'un satellite. Il y a cette idée-là que c'est l'homme qui donne la centralité, la stabilité, pas forcément, disons, la supériorité, mais il y a cette idée de structure. C'est pour ça qu'on parle d'un chef de famille. Alors tout cela est vrai dans les sociétés historiques. Dans les sociétés préhistoriques, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'avant que l'histoire ne commence, la société était matriarcale. C'était la femme qui dominait. Et depuis que l'histoire a commencé, ce qu'on appelle le commencement de l'histoire chez les historiens, c'est depuis l'invention de l'écriture, il y a une dominante au niveau de la direction politique des affaires des hommes plus que les femmes. Même de nos jours où il y a une tentative de rétablir l'équilibre entre les hommes et les femmes, il reste encore que la majorité de la direction politique des sociétés humaines est aux mains des hommes. D'accord? C'est pas un jugement de valeur, c'était un état de fait. Un tas de faits qui n'est pas, qu'on ne peut pas, disons, accuser uniquement les décisions des dirigeants, etc., parce que les hommes sont plus forts, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on peut prouver que c'est pas comme ça. En tout cas, bon. Alken Yaazov Ish, je reprends ici le texte de la Torah. Alken Yaazov Ish et Aviv et Imo. C'est pourquoi un homme abandonne son père et sa mère.
Oui. C'est marrant qu'il n'y ait pas de Yud dans Isha et qu'il y a un Yud dans Ish.
Ah, très bonne question. Il y a un yud dans Ish, il n'y a pas de yud dans Isha. Alors, si, ça semble remettre en question ce que dit la Torah, hein, que Isha est appelée Isha parce qu'elle vient de Ish. Alors, si vraiment Isha, c'est le féminin donc de Ish, elle devrait être appelée Aleph Yud Shinhe. Grammaticalement, le mot Isha n'est pas le féminin du mot Ish. Oui. Grammaticalement, Isha, c'est, il y a un dagesh dans le Shin, je ne sais pas si tu as remarqué. C'est donc qu'il y a une lettre qui est tombée. C'est la lettre Noun. Noun. Par exemple, des hommes, on dit Anashim. Anashim. Donc, en fait, c'est comme il y avait écrit Insha. Insha. Quoi? En araméen, Intu. Intu. D'accord? Ou Iteta. C'est aussi donc le. Ça peut être un dédoublement du Shin aussi. Ça viendrait donc de la racine Ashash, qui veut dire fondation. Achash veut dire fondement, la femme étant le fondement. Achash, Aleph Shin Shin. Comment? Ish, ça veut dire du mot Esh, c'est-à-dire le feu. C'est-à-dire ce qui monte. Il y a la base et ce qui monte. Donc il y a ici une non, il n'y a pas d'équivalence Ishisha. Pourtant, alors qu'est-ce que dit la Torah? Elle dit que Isha c'est le féminin du mot Ish. Ça veut dire que c'est vrai que c'est d'une origine différente, mais dans la phonétique. Le mot Isha semble être le féminin du mot Ish. Donc c'est une coïncidence qui n'est pas par hasard. Le Midrash fait remarquer que c'est la seule langue, l'hébreu est la seule langue au monde, où le mot Isha est le féminin du mot Ish.
Quoi?
Oui. L'hébreu, par exemple en français, on dit un homme, on ne dit pas une homesse. Oui, d'accord, mais on ne dit pas une homesse, on dit une femme, n'est-ce pas? Par exemple, en arabe, Rajul, Marra. D'accord? En grec, Anthropos, Guinéa. En japonais aussi d'ailleurs, c'est pas le même mot. Vous pouvez le prouver. Ceux qui peuvent prouver le contraire, qui le disent. Et oui?
On a dit que la femme, c'est.
Incha, oui. Non, Ashash, Ashash. J'ai donné deux possibilités. Soit que c'est à la place d'un Noun, soit à la place d'un Shin. D'accord? Et par exemple, en anglais, man est, on devrait dire, maness pour une femme, n'est-ce pas? On dit woman, woman. Donc ça veut dire, ça vient en fait du mot womb, man. Wam, ça veut dire une matrice, c'est-à-dire un homme avec une matrice. D'accord ? Mais c'est pas la forme féminine. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Midrash dit de là nous savons que le monde a été créé en hébreu. Mais ça veut dire quoi ? Que dans toutes les langues, le mot qui désigne la femme n'est pas le féminin du mot qui désigne l'homme. Ça veut dire que selon l'ensemble des langues, un homme, c'est un être humain entier, et une femme, c'est également un être humain entier. Et puis, comme ils ont des besoins mutuels, alors ils se marient. Mais chacun est entier par lui-même. Tandis que si, en hébreu, Ish a pour correspondant féminin le mot Isha, ça veut dire que les deux font partie d'un même être. Et donc, qu'un homme sans la femme n'est qu'une moitié d'homme, et la femme sans l'homme n'est qu'une moitié d'homme aussi. C'est-à-dire qu'il y a un rapport mâle-femelle qui fait que l'homme entier, c'est celui qu'on appelle Ishisha. Si vous voulez, en hébreu, Ish et Isha, ça s'appelle comment ?
L'homme ou l'être humain ?
Ben justement, l'être humain. C'est-à-dire que si vous prenez, on va faire une équation, une belle équation. Vous avez vu, Ish plus Isha égale Adam. Question. Le mot Adam, il est masculin ou féminin ? Il est masculin. Adam, Hazé. D'accord ? Alors c'est quoi le féminin de Adam ? Adama. D'accord ? Donc vous avez ici un nouveau féminin supplémentaire. En plus de Ishisha, vous avez Adama. Ça veut dire que un être collectif s'appellera Adam. Par exemple, un peuple peut s'appeler Adam. Le peuple juif, dans le livre d'Ézéchiel, en hébreu. Comment on dit en Ézéchiel en hébreu. Le peuple juif est appelé Adam. Adam, Atem, Neum, Hashem. Vous êtes Adam, parole de l'Éternel. D'accord ? C'est un être collectif. Et donc, le féminin de ce Adam, c'est Adama. Ce qui veut donc dire que la relation d'un peuple à sa terre, selon la Torah, est une relation de couple. Contrairement à ce qu'on trouve chez les goïms, où c'est une relation filiale. Il y a la mère-patrie. D'accord ? La patrie, ça vient du mot pater, qui veut dire un père. En anglais, motherland, la mère. On parle de la mère-patrie. C'est-à-dire la relation du peuple envers la terre, chez les goïms, est une relation de fils envers ses parents, soit son père, soit sa mère. Et donc, le patriotisme, c'est-à-dire l'appartenance à la patrie, est une forme d'inceste collectif. Vous avez compris ? D'où le sentiment de péché qu'il y a dans cette relation envers la patrie. Tandis que chez les juifs, la relation est une relation de couple. Et donc, c'est une relation morale. Et donc, il faut mériter. C'est-à-dire, je suis le fils de ma mère, que je le veuille ou non. Mais je suis le mari de ma femme parce que je le veux bien. Et donc, il faut le mériter. Je peux divorcer. Tandis que de ma mère, je ne peux pas ne pas être son fils. Vous comprenez ? C'est-à-dire, la relation envers les parents est une relation naturelle, envers la femme, une relation morale. Et c'est ça, la nature de la relation d'Israël envers sa terre. Adam, Adama. N'est-ce pas ? Extraordinaire, tout ce qu'on peut faire avec un feutre et une feuille de papier. Oui ? Ah, fondement et eau, c'est pas la même chose. Les eaux, ça donne la structure, c'est-à-dire la forme. Mais il faut qu'il y ait une base. Cette structure doit être établie sur un terrain. C'est-à-dire, un homme qui n'est pas marié n'a pas de base. D'accord ? D'accord. Oui ?
Le fait que le début de l'histoire, au début de l'histoire, l'invention de l'écriture ait changé la forme de
oui, la société, oui. Disons que l'écriture a été inventée, disons, d'après les historiens, à peu près vers moins 3500 avant l'ère chrétienne. 3500 avant l'ère chrétienne. Ou bien 3000, enfin c'est pas très clair.
5773.
Non. Par exemple, remarquez une chose. quand Abraham achète un terrain pour enterrer sa femme. D'accord ? Il donne de l'argent. Il prend possession. Il n'y a pas de contrat. Oui, mais ça veut dire que chez les Hittites, l'écriture n'était pas en usage, en tout cas pas utilisée tellement. C'est-à-dire qu'une acquisition se faisait par acte d'argent, par prise de possession, mais l'absence du contrat est très forte là-bas. C'est-à-dire que chez les Hittites, l'écriture n'était pas en usage. Pour une raison très simple, c'est que Hebron, c'est dans la montagne. Or, les développements de civilisation sont plus tardifs dans les montagnes que dans les plaines. Par contre, quand la Torah nous dit comment divorcer, elle dit qu'il faut écrire un acte de divorce. C'est-à-dire que la Torah suppose l'écriture déjà connue.
On était déjà allé en Égypte.
Oui, on était déjà en Égypte. Enfin,
depuis 3000 ans.
Non, et puis à part ça, il y avait également chez les Acadiens. Enfin, c'est l'écriture existait déjà du temps d'Abraham. Il est intéressant de voir qu'elle n'était pas devenue d'un usage généralisé.
Oui.
Oui. Bon. Je reprends ici le verset Kavdalet. Alken Yaazov Ish et Aviv et Imo. C'est pourquoi un homme abandonne son père et sa mère. Vedavak Beishto, littéralement pour se coller à sa femme. Vehayu Levasar Echad, ils deviendront une chair unique. Alors, il y a quelque chose d'absolument incompréhensible. S'il est collé à sa femme, donc ils ne sont pas une même chair. Ils sont deux chairs différentes. On ne peut pas à la fois être collé et être la même chose.
Ils vont devenir une chair unique, c'est ça ?
Comment ils vont devenir une chair unique ?
C'est avec l'enfant.
Avec l'enfant, c'est ce que dit Rachid. C'est-à-dire que l'union conjugale a pour finalité l'avenir. C'est ce qu'elle est féconde. C'est la fécondité qui va donner un sens. D'où le grave problème qui se pose en mathématiques. Vous connaissez le problème de l'équation suivante. 1 plus 1, vous connaissez, on avait étudié ça, non ?
Égal à 1.
Non.
1
plus
1. Hein ? On va refaire rapidement. Il y a effectivement l'opinion romantique qui dit que 1 plus 1 est égal à 1. Ce qui est une... Quoi ?
2.
Quoi ? C'est ?
2.
Alors, l'opinion des mathématiciens, c'est que 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2, c'est totalement faux, pour une raison très simple. On était 2 avant de s'unir. Donc, le fait de s'être uni n'a rien ajouté, si tu dis que 1 plus 1 égale 2. Donc, ça, c'est une réponse totalement fausse. Maintenant, l'idée que 1 plus 1 égale 1, c'est l'idée romantique, mais dans ce cas-là, c'est un assassinat, le mariage. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une victime, il y en a un qui a disparu au moins. Ou bien chacun a perdu sa moitié. D'où la terreur qu'ont les célibataires de se marier. Les célibataires se disent, mais enfin, je ne vais quand même pas mourir. Souvent, on dit, laisse-moi vivre et après je me marierai. D'accord ? Ça veut donc dire que le mariage est identifié à la mort. Il y a même une expression en argot israélien, animet alaïr. Je meurs de toi. D'accord ? Quand on dit, c'est comme je t'adore en français, en hébreu on dit animet alay. C'est-à-dire je meurs de toi. C'est très grave. Ça veut donc dire que l'amour est une forme de mort. Et dans le freudisme, il y a beaucoup de choses autour de ça. Et ça explique pourquoi c'est terrifiant de se marier, pourquoi est-ce que, à cause du romantisme, les célibataires ne veulent pas se marier. D'accord ? Et il y a. La vraie réponse, que vous avez très bien dit, c'est ce que dit Rachid également sur notre verset, c'est qu'un plus un égale 3. Vayou les basar echad. Ils deviendront quelque chose de 1. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments ici. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin bien connu qui représente... Je suppose que vous avez compris de quoi il s'agit. N'est-ce pas ? Une choupa. Alors, de quoi est faite une choupa ? Il y a le marié, il y a la mariée, il y a un troisième élément qui les unit. C'est-à-dire que chacun reste dans son indépendance, il restera toujours lui-même, elle restera toujours elle-même. Mais à part ça, ils ont quelque chose en commun qui les transcende, la choupa, ou l'enfant qui va sortir d'eux, et c'est dans l'investissement dans la caisse commune que va se faire la réunion. D'accord ? Il y a une caisse commune entre les deux. C'est ça qui fait le mariage. Vous avez compris la différence ? Très important, ce qui veut donc dire que le mariage, c'est la vie. Et tant qu'il n'y a pas de mariage, on n'est pas encore né. On est encore en exil. Oui ?
Pourquoi des fois on parle de 1 ? Pourquoi on parle de 0,5 plus 0,5 ?
D'accord, alors 0,5 plus 0,5, ça fait quoi ? Ça fait 2. D'accord ? Ou bien 1,5.
L'enfant, il n'est pas entier.
Oui, alors donc 1,5. Non, oui, il est lui-même bassard seulement. Pourquoi il est bassard et pas etsem ? Il devrait être moitié bassard, moitié etsem, comme le premier homme. Mais un bébé à l'origine est essentiellement féminin. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit. Il est toujours en situation de recevoir. Donc il se comporte comme le féminin. Oui ?
Je trouve que 1 plus 1 est égal à 3, c'est quand même oublié à Hachem là-dedans.
Il veut dire 4 ?
Il y a 1 plus 1 plus quelque chose qui fait 3. Mais il y a plus Hachem qui vient mettre une âme, c'est pas nous qui vient mettre une âme.
Disons comme ça. Quand il y a 1 plus 1, alors Hachem peut se manifester dans le troisième. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a trois associés dans la création d'un homme. Son père, sa mère et Akadosh Baruch Hu. Oui, alors si tu veux, ce n'est pas ce qu'on appelle en philosophie un triangle dialectique. D'accord ? Par exemple, chez Hegel, il y a toute chose, c'est une thèse, une antithèse qui donne une synthèse. Chez nous, il n'y a pas de triangle, il y a un losange dialectique. C'est-à-dire, la thèse et l'antithèse deviennent une synthèse qui révèle l'unité primordiale. D'accord ? C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 6. Ben oui, c'est d'après ce que tu dis là. 1 plus 1. Alors il y a le troisième qui vient naître, mais tout cela est transcendé par Akadosh Baruch Hu qui vaut les trois à la fois. Donc ça fait 6.
Ça change totalement bien
l'unité Michel. Ça change complètement quoi, allez ?
Non, c'est une formule.
Oui, mais on pourrait faire une nouvelle mathématique avec ça. Voilà, bon.
Arabe, quand c'est qu'il y a des grands de la Torah qui n'étaient pas mariés à...
C'est pas bien ça. C'est pas bien. Bon. Vayiyu shenehem arumim. Ils étaient tous les deux nus. Quoi ? Oui, café, oui. Sans sucre. Vayiyu shenehem arumim. Ils étaient tous les deux nus. Que veut dire le mot nu ? Sans enveloppe. Oui. Ça veut donc dire qu'ils n'avaient pas de corps. Si la Torah dit qu'ils étaient nus, ça veut donc dire qu'ils n'avaient pas de corps. Parce que le corps est un vêtement. Un vêtement de l'âme. Donc, tout ça se passe dans un monde totalement éthéré, dans lequel il n'y a que l'être lui-même sans enveloppe. Adam veishto, l'homme et sa femme. Velo yitboshashu. Comment vous traduisez ça? Velo yitboshashu. Alors, on traduit en général, il n'avait pas de honte. Oui, alors, oui, il y a un petit problème. Bon, alors, on peut dire qu'il n'avait pas de honte. Dans ce cas-là, ça veut dire que, comme il n'y avait pas encore de péché, donc il n'y a rien à se cacher. Mais le problème, c'est que, en hébreu, le mot boucha donne un verbe, levosh. Donc il faut dire velo yevoshu. Ou bien lo yitba yeshu. Mais le yitboshashu fait supposer un autre verbe. Le verbe bashash. Bet shin shin. Où est-ce qu'on a trouvé ce verbe, le verbe bashash? Vayar ha'am ki boshesh moshe lavo. Le peuple vit que Moshe s'attardait à venir. Donc, Boshesh, ça veut dire s'attarder. Donc, Veloïd Boshashu, ils ne se sont pas attardés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attardés, ils ne sont pas restés longtemps dans cet état. Parce qu'ils sont arrivés dans le corps.
Oui, ça n'a pas une connotation un peu négative, s'attarder.
forcément. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés longtemps dans cet état-là. Ouais. Voilà.
Donc là, pourquoi? Il y a pas sous-entendu que finalement, le fait de passer dans un autre état, c'était une bonne chose.
C'est possible. C'est possible, ça dépend
du... prévu,
c'est possible. Effectivement, il y a des midrashim qui vont dans ce sens. Donc cette idée du péché du premier homme, en fait, c'est du bluff total. C'est-à-dire, c'était un coup monté. De toute façon, il devait sortir du Gan Eden. Bon. Regardons au chapitre Guimel, au verset 1. Ve'anachash et le Nachash, Haya Arum était le plus... Ça veut dire quoi, Arum?
Intelligent.
Intelligent. On avait dit ce verset, n'est-ce pas? Ça, Arum veut dire intelligent.
Non,
ah, attention! En hébreu, nu se dit Arum. Et intelligent se dit Arum. Et ils ont le même pluriel, les deux mots. Les deux se disent Arumi au pluriel.
Ça se trouve, c'était intelligent. C'est pas nu.
C'est possible. D'accord? Mais par la suite, on va voir que l'homme découvre qu'il est nu. Le Nachash était le plus intelligent de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Alors, c'est quoi l'animal le plus intelligent que vous connaissez?
L'homme.
C'est l'homme qui est l'animal le plus intelligent, n'est-ce pas?
On n'est pas très structuré par rapport à d'autres animaux. Enfin, là, c'est une question d'intelligence. On voit des fourmis ou certaines espèces,
ouais,
qui sont très structurées.
Mais elles ne sont pas intelligentes. Elles ne sont pas intelligentes.
L'homme, c'est une nefesh ra'eh, c'est pas très tassalé. Donc, c'est pas pareil.
Pourquoi il n'est pas Khayat Asadé?
Parce que Hachem, il a construit comme Nefesh Khaya, il a créé comme Nefesh Khaya.
Oui, mais donc Nefesh Khaya. C'est un Nefesh qui est Khaya. Donc, mais, c'est, à part ça, j'aimerais comprendre.
Quel est l'organisme vivant le plus intelligent?
Bah oui, bah c'est l'homme.
Ou le plus définissable, parce que c'est quoi l'intelligent?
Et donc, comment il s'appelle ici l'homme dans ce verset? Nachash. N'est-ce pas? Ça vient de quel verbe? Le Nachash, qui veut dire? Hein? Les nachesh, ça veut dire quoi? Allez, devinez.
Devinez.
Ah, ça veut dire deviner. D'accord. C'est-à-dire, les nachesh, oui, les nachesh en hébreu.
Ça
ouais. Les nachesh en hébreu, c'est une vanne, non? Les nachesh en hébreu veut dire deviner. Et donc, c'est exactement à ça que sert l'intelligence, à découvrir ce qui est caché. Donc, l'homme ici est appelé nachash, l'homme en tant que doué d'intelligence naturelle.
Ça comporte le fait que...
Quoi?
Arum,
Arumim. Oui. Regardez, le verbe vient avant le sujet vient avant le verbe, n'est-ce pas? Vanachash haya. Or, en hébreu biblique, il faut dire vayihi anachash. Le verbe avant le sujet. Quand le sujet vient avant le verbe, que dit Rashi, c'est quoi? C'est un passé antérieur.
Quoi?
Quand le sujet vient avant le verbe en hébreu biblique, d'après Rashi, c'est un passé antérieur. Ça veut dire, et le Nachash avait été le plus intelligent d'eux. C'est-à-dire quoi? Il avait été avant le récit écrit plus haut. C'est-à-dire que l'intelligence naturelle représente l'état primordial de l'homme avant qu'il ne devienne Nefesh Chaya.
Ou avant qu'il soit séparé.
Ou avant qu'il ne devienne Nefesh Chaya. Avant tout le récit qui est là. C'est-à-dire... À l'origine, l'homme en tant qu'être naturel, c'est l'intelligence naturelle. Et après, cet être doué d'intelligence naturelle est détrôné par le nouveau niveau, qui est appelé Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, c'est l'homme en tant qu'être moral. Et il y a toujours en moi une tension entre moi en tant que personne morale ou en tant qu'être intelligent. Est-ce que je suis un singe super développé, et dans ce cas-là, je suis un nachash, ou bien est-ce que je suis une personne douée de moralité, et dans ce cas-là, je suis un nefesh chaya. Cette tension est très grave en moi, en tout homme, évidemment.
Il y a un équilibre entre les deux.
Alors justement, c'est pas toujours si simple l'équilibre. Un équilibre, ça, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est pas quelque chose qui est donné dès le départ. Et donc, ça implique un dialogue entre le nachash et l'homme. C'est comme par exemple quand quelqu'un se dit, on dit qu'est-ce que tu fais demain matin? Il dit voilà, ben écoute, ma cervelle dit ça, mais mon cœur dit autrement. D'accord ? C'est-à-dire, il y a des dialogues qui se font à l'intérieur de l'homme.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on appelle le serpent Nahash ?
Ah, le serpent ! C'est vrai que le serpent aussi s'appelle El Nahash. Ah, c'est vrai. Le serpent aussi s'appelle Nahash pour une raison, pour trois raisons. Il est terrestre. Il est à circonvolution. Et il tue.
Il
n'est
pas le serpent.
Volution. Il est.
Cyclique.
Non, pas cyclique. Non, sinueux. Non. C'est exactement l'intelligence naturelle. Quoi ?
Il tourne
autour de tout, quoi. D'accord ? Voilà, c'est ça. Donc c'est ça l'intelligence naturelle. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'animal qu'on appelle le serpent. C'est pour ça que même le serpent est appelé Nahash.
Ouais, parce que le serpent, il ressemble peut-être à un...
Il ressemble à l'intelligence. Il est terrestre, il est...
Il tourne autour de... Il y a un axe autour duquel il tourne.
Pas forcément, il ne fait pas toujours des tours. Il tourne...
Il se dévite, quoi.
Pas forcément.
Pas forcément.
C'est-à-dire qu'en tout cas, il est sinueux. Il y a beaucoup de complications dans l'intelligence.
Mais l'homme, il est très comme ça, non ?
Quoi ?
L'homme, il est très comme
ça. Oui, exactement. Donc l'homme et le serpent, ça se ressemble. D'accord ? Et donc, il y a ici un dialogue qui va s'instaurer au sein de l'être humain entre le Nahash et la partie qu'on appelle Adam. La partie qu'on appelle Adam, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle est déjà divisée en deux. Ish et Isha. Donc il y a dans l'homme dans Adam Harishon, vous avez trois êtres. Vous avez un être qu'on appelle Ish, un qu'on appelle Isha et l'un qu'on appelle Nahash.
Ça c'est bon.
Ça c'est Adam Harishon. Il y a une chose qu'il n'a pas pour l'instant, il n'a pas de corps encore. Je vais faire un petit dessin qui va vous représenter Adam Harishon.
C'est qui ça va?
Elle n'a pas encore de nom, là, cher ami. Regardez. Ceci est Adam Harishon. Ish, Isha, Nahash. Il y a une chose qu'il n'a pas encore. Il n'a pas encore son corps. Le corps est appelé, dans la Torah... Non. Ça, c'est en hébreu moderne. Regardez au chapitre Guimel, verset Kafalef. Kutnot or. Vaya, Hashem Elohim l'Adam, ou Ishto Kutnot or, va Elbishem. Dieu fit à l'homme et sa femme une tunique de peau. C'est quoi la tunique de peau? C'est le corps. D'accord? Donc, l'homme complet, c'est ça. Il y a autour de Ishishanachash, vous avez également une peau. D'accord ? C'est un corps. Mais au stade dans lequel nous parlons là dans ce récit, pour l'instant, il n'y a que Ishisha et Nahash. Maintenant, le dialogue va s'instaurer entre Nahash et Isha. Pourquoi ? Parce que le Nahash ne peut pas s'attaquer directement à la partie Ish. La partie Nahash, c'est ce qu'on appelle l'intelligence naturelle, et la partie qu'on appelle Ish, c'est l'intelligence divine. Le divin et le naturel, c'est le divin qui l'emporte. Mais il y a la sensibilité qui est intermédiaire entre l'intelligence supérieure et la nature, et c'est par ce point commun que le Nahash peut s'introduire.
Alors que Ish veut dire ?
Ish, ça veut dire l'intelligence d'en haut.
Donc la sensibilité, c'est une faiblesse ?
C'est une donnée. C'est, ça veut dire qu'il y a un point de rencontre entre le Nahash et le Ish, qui est le Isha. D'accord ? Il y a ici une rivalité. C'est quoi cette rivalité du Nahash ? Ben, ça veut dire que, étant donné que le Nahash a l'ancienneté, c'est lui la couche primordiale, c'est lui qui va tenter de tout amener à lui. D'accord ? C'est comme par exemple, je ne sais pas, nous autres, nous avons commencé notre vie par le ventre. Vous savez comment est-ce que le fœtus se forme ? Il y a le cordon ombilical autour du nombril. D'accord ? C'est de là que tout va se former. Et donc, quand je me replie sur moi-même, ça revient au ventre. D'accord ? C'est ce qu'on comprend d'ailleurs les mystiques de l'extrême-orient, quand ils représentent le Bouddha avec les mains sur le ventre. Un ventre énorme. D'accord ? Parce que c'est la source de la vie pour eux. D'accord ? Et donc, de même, le Nahash va essayer de, par la force, va opérer un magnétisme qui va tout attirer à lui. C'est ça le dialogue entre lui et la Isha. Va'enachash haya arum mikol chayat asadeh asher asa Hashem Elohim. Va'yomer el ha'isha, il dit à la Isha, Af ki amar Elohim lo tochlu mikol etz hagan. Dieu n'a-t-il pas dit de ne pas manger des arbres du champ, des arbres du jardin?
Va-t-on... Je pense qu'il n'y a pas de dialogue entre l'homme et la femme.
Ah, là tu arrives au vrai problème. Tout cela était possible parce que l'homme était en train de dormir, dit le Midrash. Qu'est-ce qu'il faisait lui, Adam? Il dormait. C'est-à-dire qu'il était évacué. Il n'y avait pas de dialogue entre lui et la Isha, entre Isha et Isha. C'est-à-dire qu'il y a une division de l'être qui fait qu'il n'y a aucune partie qui féconde l'autre.
Et la sensibilité et le...
C'est-à-dire que s'ils avaient été capables de se parler, ça ne se serait pas passé. D'accord ? Et pourquoi il ne lui parle pas ? Parce qu'il l'appelle... Quel nom il lui a donné ?
Isha.
Quand tu rentres chez quelqu'un et que tu entends qu'il dit « Femme, fais-moi un café », ça veut dire quoi ? Qu'elle n'est pas une personne, qu'elle est un objet. Non, il devrait lui dire son nom. Josiane, je sais pas, Albertine, des trucs comme ça, quoi. Hermantrude.
C'est quoi le groupe?
Ben justement, parce que étant donné qu'il la considère comme un objet, lui aussi est un objet. Relation d'objet à objet.
Et pour le faire fauter, après elle va lui parler.
C'est non, elle ne lui parle pas. Elle lui parle pas, justement. Elle lui donne le fruit, il mange. Ils n'ont pas eu de discussion entre eux. Et regarde ce qui se passe après le péché. Regardez au verset.
Mais il ne donne pas des instructions.
Une seconde. Non, pas du tout. Verset Kaf. Chapitre Guimel, verset Kaf. Vaikra ha'adam shemishto Chava. Et alors l'homme nomma sa femme Chava. C'est-à-dire que c'est ça le tikkun. Pour la première fois, il lui donne un nom. C'est-à-dire qu'auparavant, il avait une relation purement intellectuelle, mais pas de personne à personne. Ça veut donc dire que chez l'homme, il y a trois relations possibles. Zahar Nekeva, femelle et mâle, c'est-à-dire une relation biologique naturelle. Il y a la relation Ishisha, qui est intellectuelle, et la relation Adam-Chava, qui est de Neshama à Neshama. Oui?
Il n'était pas narcissique, Ish, de s'appeler Adam?
Non, quand il l'a appelé Chava, il a reçu le nom de Adam. C'est elle qui l'a appelé Adam.
Mais c'est pas Adam.
Quoi?
C'est que Ish, il n'est pas Adam.
Quand est-ce qu'il a reçu le nom de Adam et qui c'est qui lui a donné? La Torah ne le dit pas.
Mais pourquoi il s'appelle Adam?
Eh bien parce qu'il est l'homme, à partir du moment où il est capable de reconnaître l'autre, alors il acquiert son être.
Ouais. Mais il est incomplet. Enfin, il a dû se rendre compte que
ouais.
Lui-même,
il a compris que c'était à cause de ça qu'il a été tombé. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.